Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ces numéros du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Aujourd'hui, nous revenons sur la journée de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre. Cette journée met à l'honneur la richesse, la diversité et la profondeur de la littérature africaine qui fait résonner les voix, les histoires et les cultures du continent à travers le monde. Dans ces numéros du magazine Identité culturelle, nous recevons quatre écrivains. Monsieur Albert Kamai, les poètes Bukassa, Monsieur Bukondo Arangi et Monsieur Bukassa Kabwe. Nos invités vont nous parler de la manière dont leurs œuvres sont inspirées par leur culture. Car c'est ainsi que les écrivains africains produisent une littérature riche et diversifiée et qui reflète la mosaïque culturelle du continent. Je suis Rosalie Zawadi, bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma,
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
À Goma, les écrivains, membres du collectif des écrivains du Nord Kivu, se sont retrouvés à l'Institut français pour partager leurs œuvres, leurs inspirations et leurs défis. C'était autour du thème « Littérature, société et paix ». Monsieur Albert Kamai, auteur des trois romans, à savoir « Coup de balai en Dakata »,« La fin d'un cauchemar » et « Le parlementeur », nous explique comment il puise dans ses racines culturelles pour alimenter sa littérature.
En fait, il faut dire d'emblée que l'écriture est plurielle. Quand un écrivain produit un ouvrage, ça signifie en fait qu'il traduit son moi intérieur. On ne peut pas parler du moi intérieur sans parler de sa propre culture, parce qu'en réalité, l'homme est ce qu'il est. C'est-à-dire, il est sa culture, il est sa civilisation. Et donc, chaque fois qu'on produit un ouvrage, ça signifie en fait qu'on véhicule sa propre culture. Et pour le cas précis, il faut dire en fait qu'on peut le faire de façon consciente ou de façon inconsciente. Et par moments, c'est le lecteur qui vous découvre, qui vous fait voir justement qu'en parcourant votre livre, j'ai découvert que vous avez véhiculé telle notion, vous avez véhiculé telle valeur, ainsi de suite. Donc, on peut ne pas s'en rendre compte. Et moi, en particulier, c'est quand je découvre des ouvrages, des productions, des critiques littéraires, quand j'assiste à la défense des mémoires sur mes romans, que je découvre justement que, ah bon, donc il y a des gens qui vont au-delà de ce que je pensais, qui ont arrivé à scruter ce que moi j'ai écrit, peut-être de façon inconsciente. Et donc, par moments, de façon consciente aussi, on sait le faire, parce que on le fait parce qu'on se sent mandaté pour véhiculer certaines valeurs. Quand on écrit, il y a un but qu'on recherche. À travers ce but, on se dit par moment, voilà, il y a telle valeur culturelle qui vaut la peine d'être transmise pour que le monde en tire profit. Voilà. Donc tout cela mis ensemble fait que on ne peut pas se passer de sa propre culture dans les valeurs africaines qui, du reste, sont nobles, sont riches, sont plurielles, comme je venais de le dire.
Alors, Monsieur Albert Kamai, par exemple, votre roman « Coup de balai en Dakata », qu'est-ce que le roman donne, partage comme valeur ?
D'accord, merci. En fait, « Coup de balai en Dakata », dans ce roman, il s'agit en réalité de l'épuration ethnique du peuple kassaïen, du Katanga vers le Kassai. Et pour la petite histoire, quand je dis « coup de balai en Dakata », coup de balai dans l'histoire, dans la littérature du Katanga, on sait que « Kifuakio », c'était en fait l'épuration. Mais au-delà de cela, quand on dit maintenant coup de balai en Dakata, Dakata c'est un village, une cité du Katanga que j'ai pris comme symbolique pour symboliser le Katanga. Et dans ce roman, on chasse les gens du Katanga vers Katanda. Et Katanda c'est un village du Kassai oriental. Et si vous faites bien l'analyse, vous allez vous rendre compte que Dakata et Katanda sont des anagrammes. Ont les mêmes lettres. comme pour dire, en fait, c'est un même peuple qui se bat pour rien. Mais par rapport à votre question, dans ce roman, à un moment, j'ai fait valoir le Kassala. Le Kassala, c'est un genre littéraire qui est très vécu dans la civilisation kassaïenne. Il s'agit justement de l'éloge, de l'exaltation d'un peuple. Et généralement, quand quelqu'un recourt au Kassala, c'est tout l'être intérieur qui se mobilise. La personne se sent auréolée, la personne se sent valorisée, et au point qu'elle est prête à donner le meilleur d'elle-même. Alors, en recourant justement à ce Kassala, il faut dire en fait dans le contexte de l'ouvrage, d'abord, pour répondre à votre préoccupation, c'est que ce genre littéraire, on ne le trouve pas dans le monde occidental.
Les Kassala.
Les Kassala, on ne le trouve pas. Donc c'est une particularité africaine, c'est une particularité justement de la civilisation du Kassai, sous réserve des autres cultures que je ne connais pas. Alors, j'ai voulu puiser dans ce genre littéraire toutes ces valeurs aussi pour montrer justement la richesse que renferme justement notre civilisation. Et donc, bien que dans cet ouvrage, il y a eu la traduction, parce que cet extrait a été rendu en Tchiluba, bien qu'on peut traduire, mais quand on lit l'ouvrage, quand on goûte à la saveur du Kassala, on se rend vite compte que c'est unique en son genre, c'est une particularité du monde africain.
Pouvez-vous nous présenter le Kassala qui est dans votre livre et dans quel contexte il a été fait?
Le Kassala a été intégré dans Koutbalé en Dakata lors du meurtre de Machimabi. Machimabi, en fait, c'était une sentinelle qui y a été abattue. Et voilà que la population a été déçue du fait que cette honorable sentinelle innocente pouvait être lâchement abattue. Mais les gens savaient qu'il avait tué et tout le monde avait peur. Il y a quelqu'un, un des siens, a identifié Machimabi. Et maintenant, pour mobiliser les autres, c'est ainsi qu'il a commencé à faire l'éloge de Machimabi. Il est passé par le Kassala. Et donc, quand il a fait cela, ça fait que tout le monde, tous ceux qui se sont retrouvés à Machimabi, se sont sentis régaillardis, comme investis par une nouvelle énergie, une nouvelle force. Et du coup, ils se sont tenus debout. Et la peur, la torpeur a disparu. Et c'était de nouvelles personnes qui se sont mobilisées pour aller justement affronter le tueur de Machimabi. Et là, dans le contexte, si je peux juste reproduire le Kassala qui est dans l'ouvrage.
Oui.
Et puis après, je ferai la traduction justement. Machimabi. Luanga lwa mukoso lwa mbiya kalanga. Kubinchi bwa bizola. Kubana babitupa, bapita balamulumu, kujibu balambula ntembwa ntembwa, balambula nemvwaji mvwaji, kujika mvija mutwa, chika mutata, mutala wabukonda mushila, ukona munyingu, Machimabi wa mamu, kwetu nkula, kwa benda kula kwa muchi.
C'est ça le Kassala.
C'était le Kassala, justement, tel qu'elle a été repris dans le contexte,
oui.
Ok, dans l'ouvrage.
La traduction de ces Kassala.
Oui, en fait, c'est-à-dire Machimabi, descendant de Mbiya Kalanga, du village où darde le soleil, soleil qui apporte les grosses gouttes de sueur, du village où l'on trouve des gros et beaux arbres, à feuillage dense, semblable à un chef d'œuvre, du village où l'on trouve des chétifs plus vaillants que les élancés, du village où l'on offre tout, même ce qui est rudimentaire, en l'occurrence les légumes témoin témoin et mvwaji, du village des femmes solidaires, Kanvidja, qui fabrique de la boisson indigène, Chika, qui tamise, Matala, fille de Bukonda, qui rince les vases, Mashimabi, celui qui habite une terre étrangère, ressemble à celui qui est au fait d'un arbre.
Lorsqu'on fait les kashala, on les crie d'avance ou c'est comment?
Non, le kashala, on ne l'écrit pas. Le kashala fait partie de l'être. Le kashala, on vit avec. Le kashala, ça fait partie de la civilisation orale. Et donc, généralement, quand vous voyez un petit, même un bébé, quand il est né, je parle de nos mamans, je ne parle pas de ces jeunes dames actuelles, mais nos mamans, justement, quand elles lavent le bébé, quand elle le met et il est en train de l'essuyer, après l'avoir lavé, il est en train de le bercer, elle lui fait le kashala. Elle rappelle à l'enfant d'où il vient, qui sont ses ancêtres, quelles sont les valeurs qu'on trouve justement dans leur culture. Voilà. Et donc, l'enfant grandit avec ça. L'enfant vit avec le kashala. Et aujourd'hui, dans plusieurs milieux, on se rend compte justement qu'il y a des gens qui se sont même excellés. Parce que le kashala tendait à disparaître. Mais il y a des gens qui ont excellé justement dans ce genre, c'est un genre littéraire en réalité. Alors ces gens-là qui ont vraiment excellé, et souvent quand il y a des manifestations publiques, alors ils en profitent pour faire les kashala. Ils ciblent quelqu'un et ils lui font le kashala. Et quand on te fait le kashala, tu es prêt à vider tes poches.
Hein? Tu sens que tes entrailles bougent.
Les entrailles bougent et tu sens justement que tu es emporté, transporté justement dans un autre univers. C'est une particularité, c'est une richesse. Et c'est parce que c'est une richesse justement que j'avais pensé que ça valait la peine de l'intégrer justement dans l'ouvrage. De sorte que même les plus jeunes, quand ils lisent, ils pourront se référer aux aînés pour chercher à comprendre, mais c'est quoi? C'est quoi justement? C'est ça, Rosalie.
Alors, poète Bukassa, vous aussi, vous connaissez les kashala? Vous pouvez nous en faire une démonstration?
Mbajimui mané Kumpalaya metwe Kumwa bajibange lambilawe Kabunji wakwa chingwe Wakwa chini uluwe Anishai wangata
Ce sont les tam-tams là qui commencent à gronder et il y a des incantations qui viennent selon la tribu. Hein. Par exemple, on peut te dire que même en Djouakoumiabi Koufuminaba, ba jeunesse, tu vois, Koumiabi à Toulon, Koufuminaba, jeunesse, Lusabukamaya, à Loubi, des choses comme ça.
En français, tout ce que vous venez de dire?
Les chants, je ne sais pas les traduire en français. Au fait, ça veut dire quoi? Je les traduirais mal. J'étais debout devant la forêt, je ne trouvais pas de chemin, et puis j'ai entendu quelqu'un crier. Mais ensuite, il y a maintenant les tam-tams qui vibrent. Mais dans cette vibration des tam-tams, il y a quelqu'un qui vante d'où il est venu. Par exemple, il va dire que non, moi je viens de Miabi. Moi je viens de Kabeakamwanga. Là où coule la rivière Loubi. Hein? Tu vois, il te dit comme ça. Moi je vais. Il vante les choses de chez lui. Par exemple, chez nous il y a une montagne de feu. Chez nous, les femmes sont. Par exemple, tu vois, les femmes claires, hein? Elles viennent d'un coin là vers Kabeakamwanga. C'est vers les fonds là. Alors, Kujibaka Jibatok. Tu vois, parce que je vois que ce sont des formes très claires là. Voilà, on dit Bohomai. C'est-à-dire que Bohomai, ce sont des formes là très claires, mais qui se sont lavées dans les eaux du lac Munkamba ou de la rivière Loubi.
Monsieur Albert Kamayi, est-ce que les kashala est dans vos différents romans, les trois que vous avez déjà produits?
Non, en fait, j'ai dû intégrer le kashala dans mon premier roman, Coup de balai en Dakata. Dans la fin d'un cauchemar, je n'ai pas pu intégrer le kashala, mais j'ai fait valoir aussi d'autres aspects culturels, cette fois-là du peuple Kanyok. Donc il y a certaines réalités, certains mais qu'on ne trouve que là, vous voyez. Et comme le poète l'a dit tantôt, c'est que traduire, c'est trahir. Quand on parle de Chisobuel, quand on parle de Machoj, en fait, ce sont des mets qu'on ne trouve généralement que là. Il m'a paru opportun, cette fois-là, de recourir à ces concepts-là sans pouvoir les trahir. Parce qu'en fait, ce sont des particularités qu'on ne peut pas traduire.
Journée de l'écrivain africain, pour vous, quel rôle devrait jouer l'écrivain dans la promotion de nos valeurs culturelles?
Chacun des écrivains a sa ligne de conduite, chacun a son champ de bataille. Et donc, de ce point de vue, on peut avoir un écrivain qui est totalement engagé pour résoudre un problème politique, et notre peut être totalement engagé pour la description de certaines valeurs culturelles totalement africaines. Un autre peut parler, par exemple, des aspects qui sont liés au métissage culturel, le danger de notre société avec les nouvelles techniques de la communication, ainsi de suite. Bref, moi, je préférerais qu'on laisse libre cours à chacun de pouvoir s'exprimer tel qu'il est, avec ce qu'il veut, pourvu qu'il prenne conscience réellement de la mission qu'il s'est effectivement donnée. Moi, je considère qu'un écrivain aujourd'hui, c'est la voix des sans-voix. C'est le chantre frénétique des leurs et lueurs de son peuple. C'est l'écho des martyrs. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui être écrivain dans un environnement comme le nôtre sans faire allusion à certaines difficultés, aux problèmes majeurs que rencontre le concitoyen.
Data jerte kanani kibando dige majiga ndigire dige mame gandira vera mwetu dige o dige majiga ndigire dige mame gandira vera mwetu dige o
sako
ofolo sume data shake walingene muto Wete mwami mbinga Patri Barumi Minani Benjamin
Kapita Kasikiti Kamae Kola e kaire Ate hofi Kale itenja kuloni tejono
Efu viviri sikore netatae Esina anjira vihue Efu viviri sikore nemari Esina anjira vihue Jorge Valingene Bavere tatengara mwetue Ika vuti nenyia e, ada kya kwakera mwetu, ada ika mumutukali e, ada kya kwake kichanga, ada ika kupiki piki e.
Kola e kaire, ada hofi, ada itenja kunoni tejono.
Iye kola e kaire, ada hofi, ada itenja kunoni tejono. Abantu batagezanya e, batechiwe na Luanda e. Atejo, atejifunu jiangote, atemboko, atejifingu, atejiro na busheke, dona yeko irei atejo, are itenja kunoli terio noe.
Dona yeko irei atejo,
are itenja kunoli
terio noe.
Ibersi mwerai, amu hanye miserable, majoro muhindo mulisi delfin.
Ujituwe muhumae, tunemu kundi muhumae.
C'était la chanson Kikandi en français Nostalgie de l'artiste Houndé Fabrice Mofiritsa. Vous écoutez Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous parlons de la richesse et de l'originalité de la littérature africaine.
Africa.
Et en parlant des éléments de l'originalité de la littérature africaine, l'écrivain Bukondo Arangi, auteur du livre Traité de la civilisation des Baoundé, nous parle de la sagesse qu'on retrouve dans les contes africains.
Voilà, le conte qui me vient en tête, il s'appelle Muhingi Nenina Ndokolo. En français, c'est le cultivateur et le léopard. Il y avait un léopard qui était poursuivi par des chasseurs. Quand le léopard fuyait, il a rencontré un cultivateur. Le léopard a dit au cultivateur, « Cache-moi et moi je t'aiderai un jour quand il sera en danger. » Donc le cultivateur a accepté et il a caché le léopard. Quand les chasseurs sont venus, ils ont demandé au cultivateur, « Tu n'as pas vu le léopard passer ici ?» Le cultivateur a dit, « Non, je ne l'ai pas vu. » Le chasseur savait que le cultivateur a caché le léopard. Les chasseurs ont dit au cultivateur, « Voilà, tu viens de les cacher. Mais ce qui va t'arriver après, ne nous appelle pas à ton secours. » Les chasseurs sont partis. Le léopard est sorti de là où il était caché. Donc, il était caché dans un amas d'herbes. Ceux qui ont fait les champs savent qu'avant de labourer, il faut vraiment défricher les champs et il y a vraiment des herbes. Il y a un amas d'herbes qu'on enterre. Voilà, c'est là que les cultivateurs avaient caché le léopard. Quand les chasseurs sont partis, le léopard est sorti. Il a demandé d'abord au cultivateur, est-ce que les chasseurs sont partis? Le cultivateur a dit, oui, ils sont partis. Voilà, et après le léopard a dit au cultivateur, j'ai faim, j'ai besoin maintenant de la nourriture. Le cultivateur a dit au léopard, je n'ai pas de la nourriture pour te servir ici, mais je pars en chercher quelque part. Le léopard a dit au cultivateur, je ne mange pas d'herbe, donc c'est toi ma nourriture. Donc quand le cultivateur s'est retrouvé dans cette situation, il n'avait plus rien à faire, il n'avait même aucun secours, parce que le chasseur l'avait prévenu. Voilà, et le léopard a dévoré le cultivateur. C'est pourquoi chez les Baoundé disent, que luko luko oto. Ça veut dire une charité non réfléchie, ça cause problème aux bienfaiteurs. Donc c'est cette leçon qui est sortie de ce conte-là et qui est vraiment une sorte de sagesse qui se partage d'une génération à l'autre pour savoir comment gérer les relations étrangères, les relations avec l'inconnu, les relations avec les ennemis, avec des personnes suspectes. Donc c'est une sagesse qui a vraiment des raisons d'être dans notre société moderne. Voilà.
Et pour vous, aujourd'hui, lorsque vous célébrez la journée de l'écrit, africain, quel est votre engagement pour la promotion, la sauvegarde des valeurs africaines?
Voilà, mon engagement est d'ordre d'abord idéologique et culturel. Parce que il y a Milan Kundera qui a dit, pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture et leur histoire. Puis quelqu'un d'autre écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Donc, mon engagement se situe au niveau de là pour lutter contre la disparition de notre patrimoine culturel. Célébrer cette journée de l'écrivain africain, pour moi, c'est une autre occasion de rappeler à notre société que ce que nous sommes en train de laisser périr, c'est en tout cas ce que nous devrions protéger pour protéger notre avenir.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Alors, Monsieur Bukasa Kabwe, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Vous êtes aussi écrivain. À votre actif, combien de livres?
Je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont Mythe d'Inakale, Réinventer le souffle de la Renaissance africaine, La non-violence, une opportunité pour la paix et la concorde, Politique de la paix, Kanyama, entre mutualité, tribalisme et tribalité, Kamana, pour une éducation à la paix et à l'écologie, Quid de la médiation, et très récemment je venais de publier le livre de la lecture et tentative de la compréhension du préambule de la République démocratique du Congo.
On parle de l'écrivain africain. Pour vous, c'est quoi la mission de l'écrivain pour réinventer la Renaissance africaine?
Le rôle de l'écrivain dans la Renaissance africaine aujourd'hui, c'est d'admettre d'abord que nos ancêtres, ils n'ont pas que vécu de l'oralité. Nos ancêtres sont les premiers à écrire, sont les premiers à découvrir des supports très importants sur base desquels ils nous ont laissé des littératures fleuves. Il faut aussi noter que quand on parle par exemple de Medunéter qui sont les paroles divines ou les écritures divines, tout cela est venu avec l'apport de la science. Dans la dynamique de l'historiographie aujourd'hui, nous sommes obligés de puiser pour admettre que non seulement il y avait de l'oralité, mais aussi et surtout il y avait de l'écrit. Alors, nous avons pour mission aujourd'hui de redynamiser d'abord la littérature africaine dans sa pensée historique à travers l'actualisation des faits qui nous entourent et aussi entrevoir un futur meilleur. Si nous n'écrivons pas, nous allons finir par non plus transmettre nos connaissances à travers l'oralité, d'autant plus que l'Africain aujourd'hui sombre dans une paresse la plus indescriptible des connaissances et surtout de l'apprentissage. D'où la littérature et surtout l'écriture devient un impératif catégorique pour laisser des traces et passer des messages qui inoculent les vraies réalités que nous vivons, les vraies réalités vers les destins que nous nous proposons nous-mêmes.
Par exemple, quelle richesse de nos traditions vous voudriez voir les écrivains mettre en valeur aujourd'hui?
Nous avons par exemple la dynamique du conte. Aujourd'hui, c'est une richesse qu'il faudra admettre autour du feu, comme aujourd'hui on n'a pas de feu, mais autour quand même de son cercle au salon, parler à ses enfants, parler à ses pères des réalités historiques ou non historiques. Ça peut être... Tu peux puiser ça dans les mythes qui rentrent dans la dynamique de la présentation légendaire ou dans la dynamique, que ce soit de la présentation pédagogique pour transmettre une connaissance quelconque. Tout cela fait partie des richesses. Non seulement il y a les contes, il y a aussi les proverbes. Les proverbes, pour moi, ce sont des dynamiques de littérature métaphysique qui portent des connaissances ou des poches qui sont sensibles, dont les secrets doivent être dévoilés à travers les explications fluides et claires vers ceux-là qui vous écoutent, vers ceux-là qui vous entendent. Non seulement il y a les proverbes et les contes, nous avons aussi nos habitudes culturelles. Les habitudes culturelles, il faut aussi les voir dans la dynamique de la gastronomie. Les habitudes culturelles, il faut aussi les voir dans la manière de gérer, c'est-à-dire comment un leadership pourrait être inspirant lorsqu'on se rapproche, par exemple, du peuple Kanyok, lorsqu'on se rapproche du peuple Hunde, lorsqu'on se rapproche du peuple Mutomo Mukulu, du peuple Nandé. Tout cela devrait entrer dans la dynamique de la richesse que nous avons à protéger, c'est-à-dire à sauvegarder, pour réserver aussi cela à des générations futures. Et pour conserver cela, il faut l'écrire. Et pour conserver cela, il faut l'enseigner. Et pour conserver cela, il faut en avoir l'habitude dans le cadre de la transmission avec beaucoup de fierté, plutôt que d'avoir honte de sa propre culture. Dès lors qu'on aura honte de notre propre culture, il faut l'admettre que nous tendrons à la disparition.
C'est la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé aujourd'hui de la richesse de la littérature africaine. C'était à l'occasion de la célébration, le 7 novembre dernier, de la journée de l'écrivain africain. Merci à nos invités, tous écrivains, Albert Kamai, poète Bukassa, Bukondo Warangi et Bukassa Kabwe. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Zawadi, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez les réécouter sur notre site radiookapi.net. À très bientôt sur ces ondes de la Radio de la Paix et surtout, portez-vous bien.